Vous écoutez
RMC. RMC, 7h-9h. Apolline Matin.
Apolline de Malherbe.
Il est 6h58, c'est lundi, c'est la reprise, bon courage. On est ensemble jusqu'à 9h, on se tient chaud. Va-t-on payer certains produits plus chers demain? Le jus d'orange, la pistache, les motos, le gaz naturel liquéfié et pourquoi pas même les produits numériques. Conséquences possibles du bras de fer entre l'Europe et les États-Unis. Donald Trump menace de faire grimper les droits de douane de 10% supplémentaires si les Européens ne le laissent pas récupérer le Groenland. Face à la possibilité d'une nouvelle guerre commerciale, l'Europe doit être ferme et crédible. Voilà le parti pris de la députée européenne, ancienne ministre Nathalie Loiseau. En a-t-on vraiment les moyens? Je lui pose la question dans 10 minutes. Et puis le budget, on y est presque, mais à quel prix? C'est sur RMC que ça se passe. La ministre du budget, Amélie de Montchalin, est mon invitée dans le face-à-face. Ce sera donc à quelques heures seulement du dénouement. Et puis, ultime cadeau aux socialistes, le gouvernement a annoncé hier que les 300 plus grandes entreprises de France seront finalement à nouveau mises à contribution. La surtaxe de 8 milliards d'euros sera bien inscrite dans ce budget 2026, deux fois plus que ce qui était annoncé. Pilule difficile à avaler pour les patrons. On les entendra à 7h40 sur RMC, mais je vous attends, vous, au 32-16. Venez donc réagir si vous êtes justement patron, artisan, commerçant, ce budget. En voulez-vous? Le WhatsApp d'RMC 06 12 424 424 et le 32-16, bien sûr. Dans un instant, le journal de 7h.
Très bon réveil à tous. Merci d'avoir choisi RMC. Il est 7h.
RMC, Apolline Matin.
Le journal de Thibaut Texer. Bonjour Thibaut.
Bonjour Apolline, bonjour à tous. Un TGV déraille avant de s'encastrer dans un autre train en circulation. Le choc en Espagne, bilan dramatique et toujours provisoire. 21 morts, des dizaines de blessés. Nous serons en direct de Madrid dans quelques instants. Deux quartiers de Narbonne, en partie évacués hier soir sur décision de la préfecture en raison de fortes pluies qui s'abattent sur la région. Cinq départements du sud sont en vigilance orange. Nous irons à Narbonne dans ce journal. Et de la liesse de Dakar aux larmes de Rabat dans un match électrique. Le Sénégal remporte la CAN 1-0 face au Payotte, le Maroc à terre.
Terrible collision, donc collision entre deux trains en Espagne.
Une nuit de profonde douleur, réagit le Premier ministre espagnol après ce drame hier soir entre Malaga et Madrid. Le bilan est extrêmement lourd, toujours provisoire. 21 morts, au moins une trentaine de personnes sont gravement blessées à Madrid. Et en direct, Pierre Chaperon, correspondant RMC, à l'origine du drame. Pierre, le déraillement d'un train.
Oui, les wagons de l'arrière d'un train à grande vitesse opérant entre Malaga et Madrid qui déraille sur une ligne droite et qui percute un autre train lancé à vive allure dans le sens inverse. Il est 19h39 aux alentours d'Adamous, une localité à une trentaine de kilomètres au nord-est de Cordoue en Andalousie quand les faits se produisent. Une sorte de tremblement de terre, un grand coup de frein et des trains plongés dans le noir, des scènes de chaos, un film d'horreur, comme l'ont relaté les survivants de l'accident le plus tragique en Espagne depuis plus de 12 ans.
Et à 7h, Pierre, une inconnue, la cause du déraillement du premier train.
Un accident extrêmement étrange, difficile à expliquer pour les experts, comme l'a dit le ministre des Transports en Espagne, Oscar Puente, un ministre groggy, défait, comme le reste du pays ce matin. Le train était neuf, c'est-à-dire qu'il avait moins de 4 ans d'ancienneté et la ligne de chemin de fer avait été rénovée en mai dernier. Une enquête indépendante a été ouverte. Elle devrait durer de nombreuses semaines.
Pierre Chaperon, directeur de Madrid ce matin pour RMC. Jusqu'à 2 mois de pluie en quelques heures seulement, voilà ce qui est déjà tombé cette nuit sur l'Hérault et l'Aude. 2 des 5 départements du sud en vigilance orange, pluie, inondation ou crue. Il est tombé 77 litres d'eau par mètre carré à Narbonne. C'est un record depuis 4 ans. Jean-Wilfried Forquès, vous êtes sur place ce matin en direct pour RMC Narbonne où deux quartiers ont été préventivement évacués et partiellement évacués sur décision de la préfecture. Mesure de précaution, Jean-Wilfried, en raison de forts cumuls de précipitations.
Oui, c'est ça. Les habitants ont reçu hier soir sur leur portable, Thibault, un message d'alerte leur demandant de quitter effectivement leur domicile, des logements qui sont situés à proximité d'une petite rivière, le REC de Veyre. Plusieurs personnes ont quitté leur domicile. Une soixantaine de personnes a passé la nuit dans le parc des expositions où du matériel était à leur disposition. Ils ont pu passer la nuit, en tout cas au sec. Ce qui pose problème, effectivement, ici, c'est un petit ruisseau gorgé d'eau ce matin. C'est le REC de Veyret. Pour l'instant, il n'a pas débordé, mais il est sous surveillance par les autorités depuis quelques heures maintenant, notamment par les pompiers. On a vu passer pas mal de patrouilles de pompiers ce matin à proximité de ce petit ruisseau, mais également des patrouilles de gendarmerie. Ruisseau sur surveillance, les transports, les écoles sont à l'arrêt, pas de transport scolaire par exemple, et toutes les routes à proximité de cette petite rivière ont été déviées ou interdites à la circulation.
Jean-Wilfried Forquès, ce matin, Narbonne pour RMC.
RMC 7h04, 49.3 ou ordonnance. On connaîtra ce soir le choix de Sébastien Lecornu.
Un conseil des ministres sera organisé dans l'après-midi. Ce sera le moment pour le Premier ministre d'annoncer son choix pour le budget de l'État. Thomas Becker, service politique RMC, est avec nous ce matin. Thomas, Sébastien Lecornu en passe d'obtenir l'aval des socialistes avec une ultime concession.
Oui, le PS obtient gain de cause sur un des points clés du budget 2026, la surtaxe des grandes entreprises. Les 300 plus grands groupes français contribueront en 2026 à hauteur de 8 milliards d'euros, confirme le gouvernement. En clair, c'est une prolongation d'une taxe créée l'an dernier et qui était à l'origine exceptionnelle. C'est pour ça que les députés et les sénateurs l'avaient supprimée. Le Premier ministre anticipe déjà la contestation des patrons. Dans un courrier, il assure que les entreprises de taille moyenne seront exemptées et que le reste des règles fiscales applicables aux entreprises est stabilisé. Avec cette ultime concession sur les recettes, le Premier ministre a surtout scellé la non-censure du Parti Socialiste. Boris Vallaud, patron des députés PS, le confirme ce matin dans Le Parisien. Les annonces vont dans le bon sens et permettent d'imaginer la non-censure. C'est tout ce que cherche le Premier ministre pour enfin adopter le budget. Il doit désormais trancher la méthode, les ordonnances encore jamais utilisées ou le 49-3 auquel le Premier ministre avait renoncé.
Et cet ultime cadeau au Parti Socialiste, ça provoque la colère des patrons. À 7h40 dans ce studio, la représentante de Croissance Plus, association des patrons, viendra réagir. Et puis à 8h30, c'est la ministre du Budget, Amélie Nonchalin, qui sera mon invitée dans le face-à-face.
Un député et sénateur appelé à se prononcer sur la situation internationale ce lundi débat sans vote à propos du Venezuela, mais aussi du Groenland, ciblé par Donald Trump. Le président américain menace d'appliquer une surtaxe douanière aux pays qui soutiennent le territoire autonome, 8 pays européens. Prépare la riposte. Une réunion est prévue dans quelques jours avec sur la table la possible activation de l'instrument anti-coercition à la demande d'Emmanuel Macron, arsenal permettant de limiter les importations ou encore de rehausser les tarifs douaniers. Les bovins, finalement, bienvenue au salon de l'agriculture, écarté par la direction. Il n'y a pas de risque, dit la ministre du secteur, évoquant l'immunisation des troupeaux de la dermatose nodulaire. Pas suffisant, Martin Lange a rassuré les éleveurs réticents à l'idée de se rendre porte de Versailles le mois prochain.
Oui, selon Annie Genevard, il n'y a aucune raison sanitaire à l'annulation de la venue des bovins puisque 90% du territoire national est désormais en zone indemne ou en zone vaccinale. Un avis partagé par Jeanne Brugère-Picou, vétérinaire.
Je dis même qu'il n'y a plus de risque. Il faut que l'immunisation se fasse en 3 semaines. Donc on voit bien que dans les zones à risque, l'immunisation est terminée. Je me rappelle avoir envoyé quelques documents. J'avais marqué clap de fin de la DNC le 18 janvier.
Le 18 janvier, soit hier, jour de l'interview de la ministre. Pourtant, renoncer au salon de l'agriculture cette année reste la bonne décision pour Pierre Debosque. Il élève des veaux dans la Sarthe.
Il faut rester raisonnable par rapport à cette maladie qu'on a du mal encore à cerner. Il faut rester sur les décisions qui ont été prises par les éleveurs, par respect pour ceux qui ont abattu leur cheptel. Je pense que n'importe quel éleveur est d'accord avec cette décision. C'est beaucoup plus sage.
Annie Genevard qui précise qu'elle respecte le choix des éleveurs terrifiés par les risques qu'ils encourent.
L'ouverture des inscriptions sur Parcoursup cet après-midi est le début du stress pour des milliers de lycéens et des étudiants qui ont jusqu'au 12 mars pour faire leurs vœux.
7h07 sur RMC, le Maroc à terre devant son public.
Une fin de match complètement folle hier en finale de la Coupe d'Afrique des Nations qui a tourné donc à l'avantage des Sénégalais en liesse, vainqueurs de la compétition pour la deuxième fois de leur histoire au terme des prolongations. 1-0, une deuxième étoile pour les Lions de la Teranga que les Marocains rêvaient d'aller chercher chez eux après 50 années de disette. À Rabat, la désillusion est terrible, Nicolas Pelletier.
Oui, sous la pluie, tête basse et dans le silence, les supporters marocains accusent le coup à la sortie du stade.
C'est le foot, faut un gagnant, faut un perdant. Aujourd'hui, c'est le Sénégal qui a eu ce petit truc en plus. Ils ont marqué un but et voilà, on a raté un pénalty. Le foot, ça se joue à rien.
C'était un film ce qui s'est passé aujourd'hui. Ils ont pas démérité. Malheureusement, c'est ce qui arrive dans le football.
La belle histoire marocaine semble être écrite lorsque l'arbitre siffle un pénalty à la 97e minute. Une joie immense, un stade en fusion, mais Brahim Diaz loupe sa panenka. Amine n'en revient toujours pas.
Brahim Diaz qui touche une panenka en finale de Cannes pour faire gagner une Cannes à son pays depuis des années et des années, c'est inadmissible. Il n'y a pas assez de confiance, il ne peut pas se permettre de faire ça.
À domicile, l'échec est immense. Le sélectionneur Walid Regragui déçu et désabusé.
À la fin, c'est un scénario hitchcockien avec ce pénalty à la dernière seconde. C'est malheureux pour le peuple marocain, surtout. Ça fait très mal au cœur parce qu'on était jamais, je crois qu'on n'est jamais passé aussi proche d'une Coupe d'Afrique qu'aujourd'hui.
Un match à oublier pour tout un pays, même si cette rencontre est entrée hier soir dans la légende de la Coupe d'Afrique.
Et puis en Ligue 1, Lyon se replace à la 4e place après sa victoire face à Brest, 2-1 hier soir en clôture de la 19e journée.
C'était le journal de Thibaut Texer, il est 7h09 sur RMC, vous en parliez Thibaut, c'est le top départ aujourd'hui pour les inscriptions dans Parcoursup. Vous êtes nombreux à témoigner, Stéphanie est avec nous au 32-16 depuis la Gironde, bonjour Stéphanie.
Oui, bonjour Apolline.
Stéphanie, comment ça va? Vous vouliez réagir notamment au fait que c'est devenu si compliqué Parcoursup, qu'il y a désormais des associations ou des professionnels qui font leur beurre là-dessus, en proposant du coaching, parfois jusqu'à 1000 euros pour accompagner les élèves et les familles dans l'inscription. Ça vous choque, Stéphanie?
Oui, je trouve ça tout à fait honteux et scandaleux, effectivement. J'ai moi-même un fils en bac qui passe donc l'examen en fin d'année.
Ouais.
Et donc, nous sommes concernés par Parcoursup. Et quand j'entends qu'il y a des parents qui sont obligés ou qui préfèrent passer par des coachs pour pouvoir passer ce cap de Parcoursup, je trouve ça scandaleux parce qu'on a des quand même dans les lycées et dans les collèges des gens qui sont payés pour accompagner nos enfants et pour les diriger et les renseignés, qui s'appellent des conseillers d'orientation, ouais, des CPE, et qui sont là pour ça.
Et qui font bien le job ou pas? Parce que là, c'est ça le problème.
Pas du tout. Voilà. Non, pas du tout. Ils font pas leur job, parce que quand on va les voir, ils sont jamais disponibles, ou quand ils sont disponibles, ils vous renvoient sur des sites internet. Donc c'est complètement scandaleux. On paye quand même ces gens, hein, avec nos impôts également, hein, éducation nationale, hein, donc.
Oui, en fait, l'école ne remplit plus son rôle. Mais c'est la même chose qu'avec les petits cours, je vais vous dire. Moi, je trouve ça assez hallucinant de voir que désormais vous avez plein de parents, alors je sais pas si c'est votre cas, mais qui effectivement se disent je vais donner des petits cours, et puis alors c'est la surenchère parce que du coup les gamins ils ont la trouille parce qu'ils se disent moi il y en a plein qui prennent des petits cours dans ma classe, alors si je prends pas en plus des petits cours. On a l'impression qu'au fond l'éducation nationale, que ce soit sur Parcoursup ou sur le reste, ne remplissant pas son rôle, c'est des services privés très chers qui essaient de compenser.
Mais tout à fait, que ce soit Parcoursup ou effectivement ne serait-ce que l'absentéisme de certains professeurs. C'est pas normal que nous, parents, on soit obligés de combler l'absentéisme de certains professeurs également par des cours particuliers qui coûtent énormément cher, dont tout le monde n'a pas forcément non plus les moyens de pouvoir payer.
Et ça crée une autre forme d'injustice.
Et ça crée une autre forme d'injustice, et l'école n'est pas égale pour tous. Et l'école n'est plus égale pour tous. Donc, certains parents choisissent de mettre leurs enfants dans des établissements privés, et ça, je le conçois, je le respecte, il n'y a pas de souci. Mais si nous, on continue à se battre pour notre éducation, que l'éducation nationale et que le gouvernement se battent également pour conserver...
Et dans ces cas-là, il faut qu'ils soient au rendez-vous et qu'effectivement, ils remplissent au moins ce service pour les parents. Merci beaucoup, Stéphanie, de votre réaction. Vous n'hésitez pas, comme Stéphanie, vous connaissez le chemin. C'est le 32-16. Il est 7h12 sur RMC. Des droits de douane supplémentaires encore pour les pays qui s'opposeraient à la volonté d'annexer le Groenland. Voilà la menace de Donald Trump. L'Union européenne doit absolument répondre d'une seule voix et être ferme. Voilà votre parti pris ce matin, Nathalie Loiseau, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes ancienne ministre et députée européenne. Et vous qui nous appelez, est-ce que vous êtes prêt à payer plus cher les produits importés des États-Unis? Ça pourrait concerner le jus d'orange, la pistache, le gaz naturel liquéfié et peut-être même demain les produits numériques, tout ce qu'on utilise au quotidien. Je vous attends au 32-16, 7h12.
RMC, jusqu'à 9h. Apolline Matin.
Apolline de Malherbe.
Il est 7h15 et vous êtes bien sur RMC et RMC Story. 10% de droits de douane supplémentaires dès le mois prochain pour tous les pays qui s'opposeraient à la volonté de Donald Trump d'acheter ou d'annexer le Groenland. C'est la menace très sérieuse du président américain. Est-ce qu'il faut craindre une nouvelle guerre commerciale? Bonjour Nathalie Loiseau.
Bonjour.
Vous êtes députée européenne, ancienne ministre des Affaires européennes. Vous revenez d'ailleurs du Groenland, vous y avez passé une semaine. Vous dites ce matin, et c'est votre parti pris, qu'il faut que l'Europe parle d'une seule voix et réponde de façon ferme et crédible. En a-t-elle les moyens ?
L'Europe a parfaitement les moyens de se faire respecter. De toute façon, c'est un choix historique. Soit on redresse la tête, soit on courbe les chines. Et si on courbe les chines, on sort de l'histoire. Donc c'est pas l'histoire du Groenland quelque part loin, un endroit où personne ne va. C'est la souveraineté européenne qui est mise en cause par Donald Trump, qui pratique une forme de colonialisme du 19e siècle en 2026. Est-ce que c'est acceptable? Non. Est-ce qu'on a les moyens de résister? Oui. On a des vrais instruments pour expliquer aux entreprises américaines qu'elles ont 450 millions de consommateurs à perdre à ce jeu-là.
Ce que vous espérez convaincre, c'est peut-être Donald Trump, mais c'est d'abord les entreprises américaines elles-mêmes, oui, qui, à un moment ou à un autre, pourraient se retourner contre leur président.
Exactement, parce que ce dont on parle depuis hier, l'instrument anti-coercition, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut
Alors,
dire que
l'instrument anti-coercition, faisons un instant de la pédagogie. Effectivement, aujourd'hui, il y aura une réunion à Berlin pour tenter de convaincre les Allemands eux-mêmes d'activer cet instrument. Ça sert à quoi et qu'est-ce que ça peut changer?
Ça a été inventé en 2023. À l'époque, c'est parce que la Chine faisait pression sur la petite Lituanie qui se rapprochait un peu trop de Taïwan. Le jour où on a inventé cet instrument, on n'a même pas eu besoin de l'utiliser, la Chine a reculé. Ça permet aux Européens, s'ils le décident, soit de mettre des droits de douane sur des importations américaines, soit d'interdire les marchés européens à des entreprises américaines, en particulier les marchés publics, au hasard de décider de ne plus acheter d'armes américaines à un moment où on se réarme, de sortir aussi des investissements américains. Bref, on a appelé ça le bazooka. C'est un instrument puissant. Il faut ne pas trembler pour le décider. Les dirigeants européens vont se réunir jeudi à l'initiative du président du Conseil. Dès maintenant, nous, parlementaires européens, en tout cas la majorité pro-européenne, a décidé de suspendre, de geler l'accord commercial qui avait été passé l'année dernière par Ursula von der Leyen avec Donald Trump, qui était un mauvais accord où nous avions des droits de douane et où les produits américains devaient entrer dans le marché européen sans droits de douane.
Donc on peut encore y échapper.
Mais
pour
bien
vous,
sûr,
on peut encore y échapper.
Mais bien sûr, et on doit se mobiliser. Il faut pas avoir la main qui tremble face à quelqu'un comme Donald Trump. L'apaisement a été tenté pendant toute l'année 2025. Ça n'a pas marché. La Chine, quand elle a été menacée de droits de douane vertigineux par Donald Trump, elle n'a pas cherché l'apaisement, elle n'a pas cherché à être aimable. Elle a commencé à contrôler les exportations de métaux rares. Et c'est Donald Trump qui a reculé.
Donc au rapport de force, il faut répondre par la force.
Dans un monde de rapport de force, quand on a des outils, quand on a des atouts comme l'Europe, on les utilise. C'est ce que nous demandent les Européens. Ils ne nous demandent pas d'être tremblants, d'être soumis à Donald Trump. Les Européens sont pro-européens à condition qu'on puisse répondre à leurs attentes. Pas qu'on tremble et pas qu'on soit tête basse face au comportement de Donald Trump. L'Alliance Atlantique, elle est par terre aujourd'hui. Il faut dire les choses, il faut regarder la réalité. Et c'est pas nous qui l'avons abîmée, c'est Donald Trump. Il ne sait pas ce que c'est qu'un allié, il ne connaît que les vassaux.
Donc il faut effectivement réagir et réagir fort. Merci beaucoup Nathalie Loiseau d'être venue dans ce studio ce matin, réaffirmer donc qu'il faut utiliser les outils que nous avons à notre portée et que l'on peut répondre. Députée européenne, groupe Renew et ancienne ministre des Affaires européennes. Et d'ailleurs, sur ce point, vous êtes nombreux à réagir. On vous fera entendre tout à l'heure vos messages, nombreux à réagir et à dire qu'au fond, il faut en effet répondre et répliquer à Donald Trump. À 7h20, l'historien d'Apolline Matin vient de rentrer dans ce studio. Bonjour Arthur.
Bonjour Apolline.
Arthur Chevalier, Jean-Michel Aulas, candidat à la mairie de Lyon, veut un tunnel de 8 km sous la ville de Lyon et c'est un projet qui a peu de chances d'aboutir.
Oui, et ça ne sera pas le premier. Hein. Assécher la Méditerranée ou construire une réplique de Paris, ces projets fous ont réellement existé, mais ils n'ont jamais vu le jour.
Vous nous le racontez dans un instant, il y aura aussi Arnaud Demange qui va venir pirater le face-à-face. Ne bougez pas, on se retrouve dans 60 secondes sur RMC. Il est 7h20.
RMC, Apolline Matin.
7h21 sur RMC et RMC Story Canal 23. Quand l'histoire éclaire notre actualité avec Arthur Chevalier. Arthur, l'ancien président de l'Olympique Lyonnais, Jean-Michel Aulas, est toujours en tête des sondages pour les élections municipales de Lyon. Mais une des mesures phares de son programme fait beaucoup parler.
Oui, et ce projet, c'est un tunnel souterrain de 8 km pour désengorger la circulation dans la ville de Lyon. L'opposition dénonce un chantier hors de prix, très difficile à réaliser. Même le ministre des Transports, Philippe Tabarot, qui est pourtant du parti Les Républicains, qui soutient Jean-Michel Aulas, est sceptique. Il a déclaré qu'il y avait plus de chances que l'OL gagne la Ligue des Champions avant qu'on soit à l'inauguration du tunnel.
Alors, on ne peut pas reprocher à Jean-Michel Aulas de faire des propositions ambitieuses.
Et vous avez raison, faire de la politique, c'est agir. Même si ça ne se fait pas, on se souviendra qu'Aulas a essayé, au moins. Des projets fous qui n'ont jamais vu le jour, il y en a eu beaucoup. Apolline, imaginez un peu que pendant la Première Guerre mondiale, on a voulu construire une réplique de Paris à côté de Paris, en plus petit, pour détourner les bombardements allemands.
Mais non.
Mais si, absolument. Alors, en fait, le principe était simple. On s'était dit que si on plongeait le vrai Paris dans le noir et qu'à côté, on construisait un Paris miniature, illuminé, avec des reproductions de tous les monuments, une petite tour Eiffel, un petit opéra, les avions allemands n'y verraient que du feu, donc ils bombarderaient la maquette au lieu de bombarder la vraie ville. Alors finalement, le projet trop ambitieux est abandonné. On a juste eu le temps de construire une réplique de la gare de l'Est.
Un homme a aussi envisagé d'assécher la mer Méditerranée.
Oui, et le pire, c'est que cet homme était assez sérieux. C'était un architecte allemand qui s'appelait Hermann Sorgel à la fin des années 20. Il imagine un projet qui s'appelait Atlantropa avec un but affiché, assécher la Méditerranée pour faire de l'Europe et de l'Afrique un seul et même continent. Alors comment faire ? Eh bien, il voulait construire des barrages sur le détroit de Gibraltar et sur le détroit des Dardanelles. Comme ça, la Méditerranée devenait une sorte de grande bassine.
Et comment on vidait la mer ensuite ?
Alors, il avait réponse à tout, puisqu'il avait soi-disant calculé que l'évaporation ferait baisser le niveau de la mer d'un mètre par an. Et à la fin, eh bien, il n'y aurait tout simplement plus eu d'eau. Alors, il avait tout pensé, tout chiffré. Par exemple, il prévoyait de mobiliser 200 000 ouvriers, rien que ça. Le projet a été plutôt pris au sérieux à l'époque, mais la Deuxième Guerre mondiale l'a finalement balayé.
Il y a certains projets abandonnés qui nous ont quand même coûté très cher.
Et évidemment, c'est le cas notamment de la tour Apogée. La tour Apogée, on a décidé de la construire dans les années 1960 à Paris. Ça devait être le plus haut gratte-ciel de France. Mais quand Valéry Giscard d'Estaing est élu président en 1974, eh bien, il décide d'annuler purement et simplement le projet de la tour. Pourquoi ? Eh bien, parce qu'il n'aimait pas les tours, très simplement. Seulement, voilà, des frais avaient été engagés, donc l'État a été condamné à payer 149 millions de francs aux promoteurs engagés sur le projet.
Merci Arthur Chevalier, l'historien d'Apolline Matin. 7h24, Arnaud Demange.
RMC.
Demange Pirate, le face-à-face.
Salut Arnaud. Bonjour. Dans le face-à-face tout à l'heure, mon invité sera la ministre du budget, Amélie de Montchalin.
Ah, 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 miam, miam, miam. Du budget, ça faisait longtemps. Pauline, on sort les pop-corns, c'est du Netflix, c'est reparti. Budget, épisode 257. Il y a du suspense, des rebondissements, de la bagarre, des alliances, des trahisons, des acteurs charismatiques, mais aussi Olivier Faure. C'est super. Ça manque juste un peu de cul, disait Mathieu. Et ce matin, vous recevez...
Non.
Ce matin, vous recevez donc un des personnages centraux, Amélie de Montchalin. Qu'est-ce qu'elle bosse, celle-là ? Ça fait 4 mois qu'elle est jour et nuit à l'Assemblée. Elle négocie avec le RN et LFI. Elle appelle le PS, elle revient vers les LR, elle retourne voir le Cornu. Faut que je rappelle machin. Elle a pas dormi depuis fin septembre. Ses enfants la reconnaissent même plus. Quand ils la croisent, ils l'appellent madame. Qu'est-ce que vous faites chez nous ? Bref, elle a votre vie. Elle a des cernes. Je l'ai vue dans les couloirs, pas encore maquillée. Je me suis dit, tiens, on reçoit le chanteur de Cure ce matin. C'est marrant.
Oh
mais non ! C'est Virginie Despentes.
Oh non,
bref, elle va être belle l'interview. Amélie de Montchalin, bonjour. Vous dormez ?
Non, 49.3, alinéa 3, dans ton cul, LFI. Je suis où ? Pardon. Madame de Malherbe, le gouvernement travaille.
Si vous dormez, moi aussi, ça va me faire dormir, je suis matinalière.
Et en plus, ça finit jamais pour elle. Elle reçoit toujours un coup de fil de dernière minute. Allô Amélie, c'est le Premier ministre. Faut ajouter 2 milliards de dépenses pour faire plaisir aux socialistes. Et voilà, c'est malin, c'est tout raturé maintenant. J'ai 50 couches de Tipex là-dessus, ça ressemble à rien. On dirait la housse de couette d'un ado, c'est n'importe quoi. Mais pour paraphraser un jeune philosophe du RN, où trouve-t-elle toute cette énergie,
ouais.
Elle doit avoir sa petite routine. Salut, c'est Amélie de Montchalin. Mon secret beauté, ma routine énergie bien-être, pour tenir face à toute cette pression à l'Assemblée, c'est de penser à mes enfants, boire du thé, manger des cookies, fait maison. Et ensuite, je me fais un gros rail de coke et je vais tirer à la Kalachnikov dans les bois avant de rejoindre mon club de MMA, me battre contre des ouzbeks de 150 kilos et ensuite torturer des chats. Et après, je suis calme pour écouter Mathilde Panot. Il me dit que je suis nul. Bon, ben nous, on va l'écouter à 8h20. Ouais. Laissez ce chat tranquille, madame. Oh.
Amélie Montchalin, la ministre du budget, donc à 8h30, mais pour l'heure il est 7h27, on se retrouve dans un instant sur RMC pour la météo et le journal, à tout de suite. 7h30 sur RMC.
RMC, Apolline Matin.
Le journal d'Élise Dangean. Bonjour Élise.
Bonjour Apolline, bonjour à tous. C'est dans une ambiance chaotique que le Sénégal a été sacré champion d'Afrique pour la deuxième fois de son histoire face à des Marocains complètement abasourdis par le scénario de leur défaite. L'Espagne sous le choc ce matin après le terrible accident de deux trains à grande vitesse qui se sont rentrés dedans. 21 personnes sont mortes, une trentaine d'autres sont gravement blessées. Et puis cette question, l'affaire des viols de Mazan aurait-elle pu être évitée? L'inspection générale de la justice rend aujourd'hui son rapport et l'une de ses conclusions fait froid dans le dos.
Le Sénégal a célébré son deuxième titre de champion d'Afrique dans un climat très lourd hier soir.
Les Sénégalais l'ont emporté 1-0 face aux Marocains après prolongation et à l'issue d'un scénario complètement surréaliste, car au bout du temps réglementaire, un but refusé au Lion de la Teranga, puis un pénalty litigieux accordé au Maroc à la 97e minute, finalement raté. Bref, c'était la confusion, Aurélien Tiersin.
Les Sénégalais, tellement furieux de la double décision arbitrale, ont quitté le terrain pour protester. Mais la légende Sadio Mané a joué à fond son rôle de capitaine pour leur demander de revenir sur le terrain.
Je pense que c'est ça qu'on devait le faire. Je pense que c'est un devoir pour moi de faire parce que l'équipe m'écoute, tout le monde m'écoute. Donc quand je vois une telle sorte de choses qui pouvaient arriver, donc ici il y a moyen de l'empêcher. Donc j'ai fait juste ce que je devais faire.
Une décision courageuse qui a payé. Le pénalty marocain est raté. Puis le milieu Pape Gueye marque un missile en lucarne au tout début des prolongations.
Si j'avais marqué, on avait perdu. En vrai, je m'en foutrais. Mais là, on ramène cette victoire au Sénégal. C'est de la fierté parce que c'est la deuxième étoile.
À l'arrivée, une explosion de joie pour les supporters sénégalais présents à Rabat.
Merci Sadio Mané, merci à toute l'équipe, on l'a fait. Le football a gagné aujourd'hui.
Ils ont montré qu'ils sont des bonhommes. Ils ont terminé le match avec l'honneur. Nous, on n'a que l'honneur.
Les Lions de la Teranga rentrent aujourd'hui à Dakar où la fête s'annonce exceptionnelle après la conquête de cette deuxième CAN dans leur histoire.
Il est 7h32 sur RMC et c'est une nuit de profonde douleur. Voilà les mots du Premier ministre espagnol Pedro Sanchez après le grave accident ferroviaire qui s'est produit hier soir dans le sud du pays, en Andalousie. Choc frontal de deux trains à grande vitesse qui a fait au moins 21 morts et une trentaine de blessés graves. Noelia est l'une des rescapées de cette collision ultra-violente. Elle raconte ce matin à nos confrères d'El País.
J'en tremble encore. Je suis toujours très nerveuse, mais par miracle, j'ai la chance d'être encore en vie. Pour ma part, je n'ai ressenti aucun choc. On était assis dans le train quand tout a commencé à trembler. Je me suis accrochée au siège devant moi et là, le wagon s'est mis à vraiment secouer de plus en plus jusqu'à se renverser sur le côté. Tout a volé, les valises, les sacs. On n'a pas eu le temps de comprendre ce qui nous arrivait. J'ai pu très vite appeler mes proches pour leur dire que tout allait bien pour moi, mais qu'il y avait des blessés très graves, des morts. Moi, j'étais à bord avec un ami et là, je n'ai pas de nouvelles. Je ne sais pas où il est.
Il est 7h33 sur RMC. C'est une des illustrations de la lenteur et des défaillances de la justice. Celle-ci est particulièrement amère puisqu'elle concerne l'affaire des viols de Mazan, pour laquelle l'inspection générale de la justice rend ce matin son rapport, commandé en mai dernier par le garde des Sceaux Gérald Darmanin. Et ce qu'on y apprend, c'est que Dominique Pellicot aurait pu être arrêté beaucoup plus tôt avant de s'en prendre à sa femme Gisèle. Son ADN avait été prélevé dès 2010 et faisait l'objet d'un rapprochement avec une autre affaire, une piste jamais exploitée à cause d'un raté majeur, Alfred Orange.
Elle dénonce la légèreté de la procédure parce que la correspondance de l'ADN de Dominique Pellicot avec une précédente affaire de viol a été envoyée par simple courrier, sans suivi, et elle s'est perdue. C'est ce que souligne Emmanuelle Piette, présidente du collectif féministe contre le viol.
Bien sûr que c'est révoltant, mais c'est comme si c'était pas si grave. Donc, eh ben, ça va avec. C'est pris à la légère. Je sais pas, moi, il me semble qu'on trouve un criminel, on fait un courrier, mais peut-être on appelle le collègue. Ça veut dire qu'on fait le minimum. Et le minimum, c'est pas assez. Donc, il y a méconnaissance des conséquences du viol et de l'importance de ces crimes.
De son côté, le ministère de la Justice reconnaît qu'encore aujourd'hui, des pièces procédurales majeures sont envoyées sans accusé de réception. Mais Sacha Stropkan, porte-parole de la chancellerie, promet chez nos confrères de BFM TV plus de sécurité et de traçabilité.
On a mis en place des mesures, notamment, tout simplement, à partir du mois prochain, la généralisation des envois de ces rapports de façon sécurisée et traçable par numérique.
Un enjeu majeur à l'heure où le fichier national des empreintes génétiques aide de plus en plus les enquêteurs, avec 7 millions de profils déjà enregistrés.
Il est 7h35 sur RMC et c'est le casse du siècle, comme vous ne l'avez jamais vu.
Trois mois jour pour jour après le spectaculaire cambriolage du Louvre et alors que les quatre membres du commando sont toujours en cours d'interrogatoire, de nouvelles images ont été diffusées hier soir par nos confrères de TF1 et de France Télévisions. Des images issues des caméras de vidéosurveillance de la galerie Apollon, Romain Hougue, qui montrent, on peut le dire, l'impensable.
Oui, ces vidéos viennent confirmer le scénario dessiné par les autorités. Il est peu après 9h30 lorsque l'on voit les deux hommes pénétré dans la galerie. L'un porte un gilet jaune et une cagoule sur le visage. L'autre est entièrement vêtu de noir, casque de moto sur la tête. Le premier se rue sur la vitrine qui renferme le diadème de l'impératrice Eugénie, s'y attaque à coups de disqueuse avant de finir de la briser à coups de poing. Il s'en saisit, la met dans un sac, puis part prêter main forte à son complice sur une autre vitrine qui cède sous les coups des braqueurs. Il dérobe le reste des bijoux, puis repart en courant par la fenêtre d'où ils sont entrés. Pendant ce temps, on voit bien des agents de sécurité sur le côté, mais ce qui frappe, c'est leur stupéfaction, leur impuissance totale face aux malfaiteurs. L'un passe un appel pendant qu'un autre se saisit d'un poteau, ce qui sert à guider les visiteurs. Il le brandit en direction des deux hommes, mais rien n'y fait. Les braqueurs terminent le travail sans aucune entrave en à peine 4 minutes chrono.
Le Louvre, où le mouvement de grève des salariés se poursuit depuis plus d'un mois maintenant et auquel Rachida Dati promet de répondre rapidement avec des décisions majeures pour faire de la sécurité du musée la priorité. La ministre de la Culture ouvre également la porte à un changement de gouvernance.
Et puis le quintet, Élise, 13h55 sur l'hippodrome de Cagnes-sur-Mer.
Et voici le pronostic de la Dream Team des courses RMC. Le favori aujourd'hui, c'est le numéro 6, Nofix. L'outsider, c'est le 7, Ritano.
C'était le journal d'Élise Dangean. Il est 7h37 sur RMC.
RMC jusqu'à 9h.
Apolline Matin.
Jour décisif pour le budget et ultime cadeau au Parti Socialiste. Une surtaxe qui devait être réduite de moitié pour atteindre 4 milliards d'euros. Et bien finalement, les 400 plus grandes entreprises de France vont bel et bien devoir payer 8 milliards d'euros en 2026. C'est donc le double de ce qui était prévu. Décision du gouvernement qui fait grincer des dents du côté des patrons. Bonjour Virginie Calmels.
Bonjour Apolline.
Merci d'être dans ce studio avec nous. Vous êtes la présidente de Croissance Plus qui représente les patrons. Les entreprises sont-elles les grandes perdante du budget 2026? La voix des patrons donc avec vous dans un instant et avec vous tous qui nous écoutez sur RMC, appelez-nous au 3216. Vous êtes patron, artisan, commerçant, est-ce que vous avez l'impression d'être les dindons de la farce de ce budget 2026? J'attends vos réactions au 3216. À tout de suite.
RMC jusqu'à 9h. Apolline Matin.
Apolline de Malherbe.
Il est 7h41, merci d'avoir choisi RMC et RMC Story, Canal 23. Pour sauver le gouvernement, les grandes entreprises vont devoir passer à la caisse. Bonjour Virginie Calmels, vous êtes vous-même chef d'entreprise et présidente de Croissance Plus qui représente les patrons. On l'a donc appris hier, ultime cadeau aux socialistes, la contribution exceptionnelle sur les bénéfices des grandes entreprises va finalement non seulement être conduite en 2026, mais elle va atteindre 8 milliards d'euros, c'est-à-dire le double de ce qui était prévu. J'imagine que pour vous, c'est une pilule un peu amère.
Oui, la pilule est amère parce que on nous parle des grandes entreprises en oubliant ce qu'est l'économie. L'économie, de toute façon, c'est un ensemble qui est fait de petites et de grandes entreprises. Et donc dire ça va simplement impacter les grandes entreprises, c'est un mensonge ou c'est une méconnaissance de l'économie parce que mécaniquement, ça va se reporter sur les sous-traitants des grandes entreprises qui sont le tissu de PME français.
Oui, parce que le gouvernement promet que les ETP, les TPI, enfin bref, les entreprises qui seraient plus petites, de taille intermédiaire ou de petite taille, seraient épargnés. Mais vous vous dites, ils seront peut-être épargnés par cette surtaxe, mais ils ne seront pas épargnés par les conséquences.
Bien évidemment, parce que, comme je viens de vous le dire, comme ce sont des sous-traitants, de toute façon, tout ça va se répercuter. Il y aura des répercussions directes sur des entreprises de plus petite taille. Et par ailleurs, comme ça ne vous a pas échappé, en fait, l'économie est devenue la variable d'ajustement de ce budget. Donc ça veut dire qu'en fait, dans son ensemble, ce sont tous les acteurs économiques qui sont mis à contribution. Et c'est grave, pourquoi ? Parce que les acteurs économiques, souvent on a l'impression qu'il y a les Français d'un côté, les entreprises de l'autre, alors que tout notre modèle social français, il est financé par quoi ? Il est financé par le travail. Et le travail, c'est quoi ? Ce sont les entreprises et ce sont donc les patrons et les salariés ensemble qui finance en fait le modèle social français. Donc on tape sans arrêt sur les acteurs économiques qui sont ceux qui contribuent au financement du modèle social. Donc on fait exactement l'inverse de ce qu'il faudrait faire.
Autre annonce ce week-end, la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises, la CVAE, va être maintenue. Ça rapporte 1,3 milliard d'euros à l'État et il vous avait promis que ça serait levé.
Suppression, absolument. Alors là encore, des renoncements, bon, on va dire qu'on est habitué malheureusement, la parole politique est vraiment démonétisée aujourd'hui. Si vous voulez, ce qui est grave, bon, la CVAE, un impôt de production, on a le double des impôts de production par rapport aux voisins, nos pays limitrophes. Donc tout ça grève notre compétitivité et empêche l'économie de se développer. Une fois encore, pour financer notre modèle social, on devrait au contraire prendre des mesures qui permettent la croissance des entreprises, pas qui freinent l'ensemble de la création de richesses.
Dans le même temps, Virginie Calmel, j'entends bien depuis plusieurs mois les patrons, et effectivement, quand on voit ces chiffres, c'est vous qui allez quand même beaucoup mettre au pot. Mais dans le même temps, lorsque j'ai reçu la semaine dernière le gouverneur de la Banque de France, François Villeroy de Galhau, il était lui-même surpris de voir que dans les chiffres et dans les rapports sur l'année qui vient de s'écouler, bah finalement, les entreprises vont pas si mal, la croissance va pas si mal, vous vous plaignez beaucoup, mais dans les faits, vous continuez à tenir le coup.
Alors c'est vrai que globalement, les entreprises sont résilientes, et je dirais que ça va avec le métier de chef d'entreprise, de s'adapter, d'être positif, de continuer à faire avancer la locomotive économique, mais quand j'entends Monsieur Villeroy de Galhau, il se félicitait d'une croissance à 0,9%. Oui. Alors évidemment, faire mieux que des prévisions catastrophiques. Certes, on peut s'en réjouir, mais on est les moins bons élèves de la classe. Donc au bout d'un moment, on ne peut pas sans arrêt se gargariser de faire simplement 0,9% de croissance, alors qu'on sait très bien que pour que notre pays, que les comptes publics soient sains et pour que notre pays s'en sorte et que notre modèle social reste financé, il faut évidemment beaucoup plus de croissance des entreprises.
Et vous parliez d'ailleurs de ce chiffre, 0,9%. François Villeroy de Galhau précisait également que s'il n'y avait pas eu cette instabilité politique, on aurait probablement eu 1,1% de croissance, on serait passé au-dessus de la barre des 1%. Virginie Calmels, restez avec nous. Il y a Jérôme qui est infirmier dans le Gard et qui voulait lui aussi réagir à ces ultimes tractations du gouvernement. Bonjour Jérôme, on vous écoute.
Oui, bonjour. En fait, j'ai entendu un petit peu ce que l'intervenant précédent là disait et j'ai pas utilisé les mêmes mots lors de mon intervention écrite. Mmh. Mais en France, on trouve qu'un seul moyen, c'est taper sur le tissu social et enfin sur le tissu économique français. Mmh. Mmh. Et on a un gouvernement qui n'arrive pas à faire d'économie. Mmh. Ils n'arrivent pas à réduire leurs dépenses. Le seul moyen pour mettre un budget à l'équilibre, c'est toujours de piquer dans la poche de ceux qui travaillent, toujours piquer sur les sociétés. Ben voilà, c'est toujours pareil.
Vous avez l'impression que vous, Jérôme, alors vous n'êtes pas forcément patron d'une entreprise, mais vous êtes au fond votre propre patron, puisque vous êtes, je crois, infirmier libéral. Vous avez quand même l'impression que c'est ceux qui bossent qui vont devoir payer la facture, c'est ça ?
Mais c'est toujours ça. C'est toujours ça. C'est toujours ceux qui bossent. Et c'est toujours les sociétés qui créent de la richesse pour la France sur qui on tape.
Vous en attendez encore quelque chose de l'État ? C'est vraiment la question qu'on se pose désormais. Et on a un peu l'impression que les patrons eux-mêmes, et c'est d'ailleurs peut-être ce paradoxe, c'est que vous vous plaignez beaucoup, mais au fond, vous avez appris à faire sans l'État. Est-ce que c'est votre cas aussi, Jérôme ?
Ah mais oui, nous on ne tient plus compte de ce que l'État peut nous apporter. Quoi. Mmh. Moi, j'ai droit, honnêtement, je travaille et j'ai droit à rien. Et je ne me plains pas de ce côté-là. Mmh. Ce qui me pose problème, c'est ce que l'État fait de l'argent que je lui donne. Mmh.
Voilà.
Ça me pose problème. Et sans cesse, ils nous demandent de plus. Nous, l'année dernière, on a la CFE qui a augmenté.
Ouais.
C'est la taxe foncière des entreprises. Alors, en sachant que moi, la taxe foncière des entreprises, c'est mon domicile. Donc, je paye déjà ma taxe foncière normale.
Ouais.
Et en plus, je paye une deuxième taxe sur le même logement. Plus que c'est ma maison.
Et on se retrouvait avec parfois certains, et vous avez été nombreux à témoigner, qui disaient que vous deviez payer ça, alors que parfois même, vous l'aviez déjà payé une première fois, mais c'est devenu un embryamnio,
Embrouillamini ?
Oui, embrouillamini, je crois que c'est le mot que je cherchais. J'ai mélangé, c'est ça, l'embrouillio et l'embrouillamini. Merci beaucoup Jérôme pour votre témoignage. Virginie Calmels, on sourit, mais la réalité c'est qu'un certain nombre de patrons, y compris membres de votre association de patrons, Croissance Plus, vous disent qu'ils envisagent soit de ne plus investir en France, soit carrément de partir?
Oui, absolument. Alors, on a un baromètre, vous voyez, qu'on fait régulièrement chaque trimestre au sein des adhérents de Croissance Plus, donc environ 500 entrepreneurs. Ce qui ressort très, très majoritairement, c'est que vous avez 96% des patrons qui disent qu'ils sont déjà défavorables au PLFSS qui a été voté. Ce renoncement à la réforme des retraites est très mal perçu. Pourquoi? Parce que nous, dans nos entreprises, nous passons, notre interlocuteur, là, Jérôme vient de le dire très bien, nous passons notre temps à arbitrer et il faut faire des baisses de dépenses. Et on sait que c'est ça aussi la clé. C'est pas sans arrêt d'aller prendre dans la poche de ceux qui créent de la valeur. Donc il faut mieux gérer l'argent public et faire des dépenses. Et ce qui est dramatique, c'est qu'on a bien vu que pour du marchandage politique, en voulant lâcher au PS, moi je ne comprends pas que de revenir sur la réforme des retraites, qui était quand même la potion la plus amère, je ne comprends même pas comment ils se font à ce point-là harakiri, ça n'a pas été négocié comme un solde de tout compte. C'est-à-dire de dire au PS,
on fait ça,
ce qui est déjà énormissime, puisque, Madame Borne a avalé son chapeau et c'est elle-même qui a dit, alors qu'elle a porté cette réforme, qu'il fallait peut-être la stopper. C'est-à-dire que la parole politique n'a plus aucune valeur. Ils ont tout lâché au PS et ça ne suffit pas. Et donc, on est rentré dans une course à l'échalote qui fait que finalement, la CVAE est supprimée, ce qui est une honte absolue par rapport, une fois encore, à ceux qui créent de la richesse et qui ont besoin au contraire qu'on les laisse grandir, qu'on les laisse bosser. Et derrière, on continue. Et c'est le PS qui fait la pluie et le beau temps pour finalement aboutir à un budget qui ne va faire que des mécontents. Pas, une fois encore, que le monde économique, que les patrons. Parce que c'est la même chose. Les Français ont besoin d'un modèle social qui soit financé. Et c'est ceux qui bossent qui le financent.
Merci Virginie Calmels d'être venue dans ce studio pour réagir. Donc vous êtes vous-même chef d'entreprise et présidente de Croissance Plus, qui représente les patrons. Merci aussi à Jérôme de son intervention. Il est 7h49. Vous êtes bien sur RMC et RMC Story. Dans un instant, comme tous les lundis, la voix de droite, Louis Sarkozy. Bonjour Louis.
Bonjour Apolline.
Louis, le texte sur la fin de vie est de retour au Sénat. C'est un projet de loi qui divise énormément. Pour vous, Louis, le droit à mourir, c'est une question de liberté.
Bien évidemment, si un individu ne peut pas choisir sa propre mort, c'est qu'il n'est pas vraiment libre.
Et votre liberté jusque-là, donc vous l'exprimez dans un instant sur RMC 7h50.
RMC, Apolline Matin.
Dans un instant, la voix de droite, Louis Sarkozy. Mais d'abord le bonus, Mathieu, avec des nouvelles de la série Harry Potter.
Et ça, vous reconnaissez, quand même. Hein ? Vous avez sans doute reconnu le thème principal de la saga Harry Potter au cinéma. Cette musique, vous la fredonnez peut-être. Peut-être que vous l'entendez habituellement à travers la chambre de vos enfants. Il va falloir se déshabituer et réapprendre d'autres mélodies. Alors là, vous l'avez aussi, c'est le Roi Lion, bien sûr. C'est Hans Zimmer, le compositeur qui vient d'être choisi pour composer la bande originale de la série Harry Potter, qui reprendra les aventures du petit sorcier anglais. Légende vivante de la musique de film, on lui doit donc le Roi Lion, mais Inception, Interstellar, Dune, Rain Man, Gladiator aussi.
Elle
est belle, hein. Fallait bien un grand nom pour succéder au thème musical qui a fait le succès d'Harry Potter. La série, c'est pour 2027. Le tournage a commencé. Tiens, une autre dans Zimmer, juste pour le plaisir. Pirates des Caraïbes.
Oh, c'est pique.
RMC, Apolline Matin.
Voix de gauche.
Voix de droite.
C'est lundi sur RMC, comme tous les lundis, c'est la voix de droite, 7h52. Bonjour Louis Sarkozy.
Bonjour.
Louis, le Sénat examinera demain le texte sur la fin de vie. Ce projet de loi, voté donc par les députés, prévoit un droit à l'aide à mourir. Alors concrètement, ça signifie que s'il remplit les critères, un malade pourra s'administrer ou se faire administrer une substance létale. Pour vous, c'est une bonne chose, Louis ?
Évidemment, pour moi, choisir sa propre mort, c'est la première des libertés. Il ne s'agit pas ici, en vérité, d'une question médicale, ni même d'une question politique, mais fondamentalement philosophique. À qui appartient notre vie ? À qui appartient sa fin ? Et si ce n'est pas à nous, alors à qui ?
Mais en ouvrant ce droit, est-ce qu'on ne banalise pas la mort, Louis Sarkozy ?
Non, Apolline de Malherbe, on banalise la liberté. Et c'est très différent. La mort est déjà, pardon de vous le dire, la chose la plus banale du monde. Elle nous concerne tous, sans aucune exception. La souffrance aussi, d'ailleurs. Ce qu'on refuse aujourd'hui, c'est que quelqu'un en pleine conscience puisse dire « ça suffit ». Et ça, c'est inacceptable. Permettez-moi de poser la question la plus centrale de ce débat, Apolline. Si un individu n'a pas le droit de décider du moment de sa mort, qu'est-ce que signifie réellement être libre ?
Mais est-ce que l'État ne doit pas, à l'inverse, tenter de préserver la vie coûte que coûte ?
Mais l'État a souvent gaspillé des vies en toute bonne conscience, et c'est parfois jugé parfaitement justifié. L'État peut envoyer des jeunes Français mourir au combat, par exemple. Mais il ne pourrait pas tolérer la mort paisible et consentie d'âmes souffrantes? Non, la liberté ne s'arrête pas là où commence la mort, elle s'arrête là où commence la contrainte. Et ici, la contrainte consisterait à imposer la vie coûte que coûte, même lorsqu'elle n'est plus vécue comme telle, par celui ou celle qui la porte.
Oui, alors ça, c'est votre côté libéral qui revient, Louis.
Bien évidemment, le libéralisme classique repose sur un principe simple. L'individu est souverain sur lui-même. John Stuart Mill l'énonçait déjà parfaitement clairement. Il y a 2 siècles, la seule raison légitime de limiter la liberté d'un individu, c'est d'empêcher qu'il nuise à autrui. Or, décider de sa propre fin de vie dans un cadre médical strict ne nuit à personne. Et l'État ne peut pas, au nom de ce principe, empêcher un individu de se nuire à lui-même. Dès lors, ce droit devrait lui revenir.
Oui, sauf que, attention, est-ce que la mort nous appartient à nous totalement? Est-ce qu'on en est d'ailleurs tout à fait conscient? Est-ce que l'État ne doit pas protéger ceux qui sont les plus fragiles, les plus vulnérables?
Protéger, oui. Confisquer, non. Mandater, non. Obliger, non plus. Le rôle de l'État, ce n'est pas de décider à la place des individus ce qui donne ou non un sens à leur existence. C'est de garantir que leur choix soit libre, que leur choix soit éclairé et protégé de toute pression externe. Or, que dit ce texte? Mais il dit précisément cela. On nous présente un épouvantail, celui de personnes âgées, isolées, poussées vers la mort par économie ou par abandon. C'est une peur légitime. Mais la réponse à cette peur, ce n'est pas l'interdiction, c'est l'encadrement strict, c'est le renforcement massif des soins palliatifs, c'est la garantie du consentement.
Et la clause de conscience des médecins?
Ah, alors là, elle est indispensable. La liberté ne se divise pas. Liberté du patient de demander, liberté du médecin de refuser. C'est précisément cela, une société libérale adulte. Des droits qui se répondent, pas des droits qui s'écrasent.
Pas des droits qui s'écrasent. Merci beaucoup, Louis Sarkozy, la voix de droite sur RMC. À votre place demain, comme chaque mardi, ce sera la voix de gauche. Ce sera avec Cécile Duflo. Rendez-vous donc à 7h50 tous les jours. Dans un instant, le journal de 8h et le bilan très lourd en Espagne. On l'apprend à l'instant. 39 morts après cet accident de train en Espagne hier soir. Nous serons en direct de Madrid dès le début du journal. Du côté de la météo, très pluvieux sur la moitié ouest et en Corse. Et attention aux vigilances du côté de la Méditerranée. Et puis juste après le journal L'Économie, ce matin c'est avec Pierre Rondeau. Bonjour Pierre.
Bonjour.
Les Français n'achètent plus de roues.
Oui, une baisse de 14% en un an et ça continue depuis maintenant 3-4 ans.
Il est 7h56, on se retrouve dans un instant sur RMC et RMC Story.
RMC jusqu'à 9h.
Apolline Matin.